Alors, de quoi parlerons-nous pendant ces conférences? Eh bien, des grands dogmes de notre foi catholique, et en gros de ce qui nous fait catholiques. Être catholique, c'est adhérer à un certain nombre de vérités, croire à un certain nombre de choses que l'on comprend plus ou moins bien. Bien sûr, on ne peut pas tout comprendre, sinon ce ne serait plus la foi. Et il est important, justement, bien qu'au fur et à mesure que nous grandissons dans la vie, en âge, etc., bien, on grandisse également dans la connaissance des vérités de la foi, que nous soyons, si on peut dire, des catholiques de plus en plus intelligents. Posséder donc l'intelligence de sa foi, pour soi-même d'abord, pour en vivre de façon plus complète, plus intégrale, donc finalement pour nous sanctifier, car c'est la foi qui est à la base de la sainteté. Et si on dit que la foi du charbonnier suffit, oui, elle suffit, mais pour le charbonnier. Celui qui n'est pas charbonnier, ça ne lui suffit pas. Donc celui qui a des capacités intellectuelles, et c'est bien sûr votre cas à tous ici, eh bien celui-là, il doit essayer de comprendre, pour autant qu'il le puisse, bien sûr, les vérités auxquelles il adhère. Hein. Il ne suffit pas de dire, ah bien c'est un dogme de foi, donc je crois, et puis en avant. Non, il faut essayer d'y adhérer de façon intelligente. Nous avons une intelligence, eh bien il faut nous en servir. Parce que cette foi, elle n'est véritablement salvatrice que si elle produit des actes, que si elle change un petit peu notre vie. Hein, être catholique, ce n'est pas seulement venir à la messe le dimanche, se confesser une fois par an et communier au temps de Pâques. Hein, ça suffit pas, ça. C'est le minimum vital, et encore, hein, ça dépend pour qui. Être catholique, c'est beaucoup plus que ça, c'est vivre d'une façon qui n'est pas celle des autres. Et toutes ces vérités de foi auxquelles nous adhérons doivent transformer notre vie petit à petit. Bien sûr, ça ne se fait pas d'un coup. Il faut de longues années, parfois, pour y parvenir. Et c'est pourquoi nous avons le devoir. Nous avons le devoir, c'est un devoir strict. C'est un devoir pour nous, prêtres, d'enseigner le peuple fidèle. Bon, nous essayons de faire notre devoir. Mais c'est également un devoir pour le peuple fidèle, et bien, de s'instruire. Ouais. Alors, c'est pour vous faciliter l'accomplissement de votre devoir, justement, et bien, que nous allons organiser ces conférences-là, qui se succéderont donc au rythme d'une fois par mois. Où je n'ai pas fait de programme bien défini parce que je tâte un petit peu le terrain, hein, je vois un petit peu comment ça marche, si on peut dire. Mais ça sera un petit peu donc, non pas de l'improvisation, mais enfin en fonction de vos réactions, de ce que vous comprendrez ou de ce que vous ne comprendrez pas. Voir s'il faut aller plus vite ou moins vite, ça. Donc nous verrons cela. Mon but est un petit peu justement de suivre. Il est pratiquement l'exposé de la foi, non pas l'exposé du « je crois en Dieu », comme le font la plupart des catéchismes, mais l'exposé des grandes vérités de foi qui sont nécessaires pour nous, pour notre salut, ouais, celles qui sont parfois les plus difficiles à comprendre, et peut-être justement les plus rarement enseignées, parce qu'elles sont un peu difficiles. Hein. C'est vrai qu'il est sûr que la question du péché originel, ça n'est pas simple. Hein. Attendez-vous, hein. À vous gratter un peu la tête, hein. Bon, on va essayer comme d'élucider un petit peu la chose. La question de la grâce n'est pas évidente non plus, ouais, tout un tas de questions comme ça qui sont un peu difficiles, un peu délicates, et que l'on hésite à exposer, mais enfin, j'ose, voilà, comme on dit en Suisse, j'ose seulement. Essayez de vous exposer de la façon la plus simple possible, bien sûr, ces vérités sur lesquelles les grands théologiens eux-mêmes se cassent la tête et se disputent. Bien souvent, sur ces grandes questions, les théologiens eux-mêmes ne sont pas d'accord. Question du péché originel, question de la grâce. Il y a tout un tas de discussions, de disputes dans l'Église. Et bien souvent, l'Église n'a pas tranché, justement, parce que, voilà, il y a une part de mystère qui demeure. Alors, ma foi, nous respecterons également la part de mystère, hein, sans prétendre comprendre tout ce qui se passe en Dieu. Alors, si nous suivons, en gros, j'ai choisi de suivre l'exposé d'un livre dont je vous recommande l'acquisition, bien sûr. Non pas que je vais faire marcher les tables de presse ou des choses comme ça, mais enfin, peut-être certains l'ont-ils déjà. C'est un livre qui est très bien fait, qui s'appelle « La foi catholique », tout simplement. C'est les textes doctrinaux du magistère de l'Église présentés par Gervais Dumège, jésuite. On l'appelle communément chez les gens prétendument théologiens, le Dumège. Oui, bon, voilà. Alors, si vous l'avez, c'est très bien. Alors, vous avez deux éditions, l'ancienne, c'est celle-ci, puis la nouvelle, une nouvelle édition, bien sûr, qu'il a fallu faire après l'événement des années 62-63 à Rome, là-bas, un certain concile Vatican II. Et bien sûr, ce Dumège a été refait pour éliminer certains textes antérieurs un petit peu gênants et introduire de nouveaux textes beaucoup plus épanouissants pour l'homme nouveau, l'homme du XXe siècle. Oui. Alors nous suivrons un petit peu, c'est un livre qui est très très intéressant, très bien fait. C'est en gros, nous nous servirons de la Bible et de Dumèche. Voilà, la Bible et puis les enseignements de l'Église. Oui. Donc c'est un recueil des principales définitions de l'Église en matière de foi. Voilà, les grands textes doctrinaux auxquels nous devons adhérer. Celui qui n'accepte pas ce qui est inclus là-dedans, mais il n'est pas catholique, qu'est-ce que vous voulez ça. Alors vous avez là-dedans les grandes définitions sur Dieu, sur la création, sur le péché originel, sur la grâce, sur Jésus-Christ, sur les sacrements, etc. Extraordinaire, c'est très très bien fait. Ouais. Donc ce sera un petit peu nos deux points de départ. Ouais. Et ce qui fait le catholique, mais précisément ce sont ces deux ouvrages, ouais, la Bible et les enseignements de l'Église. Ouais, le protestant, lui, il n'a que ça. Le protestant, il a la Bible, c'est tout. Voilà. Il a la Bible, il la lit, et il prétend la comprendre tout seul. C'est un peu prétentieux. Le catholique, lui, il dit, moi, je suis un pauvre type, je suis une nouille, je suis pas très malin. La Bible, c'est bien, c'est beau, c'est vrai, tout ce qu'il y a dedans, mais je suis pas très doué pour comprendre la signification de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il demande à l'Église, expliquez-moi ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, le catholique, il ajoute à la Bible, du Mège, si vous voulez, enfin, les enseignements de l'Église, tout simplement. Ouais, c'est cela qui fait le catholique. Ouais. Les sources de notre foi, il ne faut pas l'oublier, hein, ce n'est pas seulement l'Écriture. Bien sûr, il a l'Écriture comme source de la révélation, c'est la première des sources peut-être, mais il y a une autre source de la révélation, et ça c'est fondamental hein, pour être catholique, et bien c'est ce qu'on appelle la tradition, l'Écriture sainte et la tradition. Voilà les sources de la foi, les sources de la révélation. Attention, la révélation est incluse dans la Bible, mais également dans la tradition. Et il faut avoir un concept assez juste de la tradition, nous nous battons pour la tradition, mais pour la vraie tradition, la grande tradition, et que nous a toujours enseigné l'Église, eh bien c'est précisément que la révélation divine n'était pas contenue que dans les saintes Écritures. Elle est également incluse, contenue dans la tradition. Qu'est-ce que c'est que la tradition? Eh bien c'est tout ce qui n'a pas été écrit, précisément. Je l'ai dit. Tout n'a pas été écrit. Les prophètes, les écrivains, les auteurs sacrés n'ont pas écrit. Et matériellement, à la limite, on n'a pas le temps de tout écrire dans une vie. Bon, Dieu enseigne beaucoup les hommes, etc. Matériellement, on ne peut pas tout écrire. Et donc, il y a aussi tout un ensemble d'enseignements qui ont été transmis de bouche à oreille par la voie de l'enseignement et qui se sont transmises et qui sont ainsi parvenus jusqu'à nous par la main de l'Église. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, les évangiles ne contiennent pas. Attention, hein, faut pas se faire d'illusions, les quatre évangiles ne contiennent pas tout ce qu'a fait et dit Jésus-Christ. Il a fait et dit encore une multitude d'autres choses qui n'ont pas été consignées, gardées par écrit dans les évangiles. Ouais. Mais les apôtres, eh bien, en ont parlé ensuite à leurs disciples. Voilà, quand ils parlaient avec eux, dans leurs enseignements, leurs sermons, leurs homélies, leurs conversations, eh bien, ils complétaient un petit peu, si vous voulez, ce qui n'était pas dans les évangiles. Et c'est cela la tradition. Ouais. Bon, leurs disciples, eh bien, peut-être les ont répétés jusqu'au jour où quelqu'un s'est mis à garder cela par écrit. Oui. Voilà. Alors cette tradition, un jour ou l'autre, bien sûr, est devenue écrite. Mais au départ, c'était simplement une tradition orale. Et c'est également une des sources de la révélation, cette tradition. Oui. Et c'est la parole de Dieu, de la même façon que celle qui est écrite dans les saintes Écritures. Et ça, c'est l'enseignement constant de l'Église. Même Vatican II, là-dessus, eh bien, n'a pas trop modifié l'enseignement de l'Église. Vous voyez, le Concile de Trente, par exemple, bien sûr, c'est surtout à lui que nous ferons référence. Le Concile de Trente le dit. Voyant clairement que cette vérité et cette règle sont contenues, donc vérité et règle de la foi, sont contenues dans les livres écrits, la Sainte Écriture, et dans les traditions non écrites. Vous voyez, c'est clair. Concile de Trente. Donc les livres écrits et les traditions non écrites, qui, reçues par les apôtres de la bouche même du Christ, ou transmises comme de main en main par les apôtres, sous la dictée de l'Esprit-Saint, sont parvenues jusqu'à nous. Ouais, tout un ensemble comme ça d'enseignements qui sont parvenus jusqu'à nous, comme transmis de main en main par les apôtres, sous la dictée de l'Esprit-Saint. Ouais, toujours cette question de l'inspiration. C'est l'Esprit-Saint qui poussait les apôtres à parler, ouais, lorsqu'ils n'écrivaient pas. Si quelqu'un, ça c'est des passages délicieux, ça, dans les anciens conciles, si on peut dire ça, malheureusement on ne trouve plus ça dans Vatican II, mais moi je trouve ça merveilleux, c'est pour affirmer, définir la foi, au moins c'est clair, on sait ce qu'il faut croire pour être catholique, alors c'est des formules claires, c'est pas vaseux, c'est pas alambiqué, c'est pas Oui, des trucs où il faut se casser la tête pour qu'est-ce qu'ils ont bien voulu dire. Et dire non, c'est clair. Si quelqu'un ne reçoit pas ces livres, les livres saints, dans leur intégrité, avec toutes leurs parties, pour sacré et canonique, tout, il faut tout prendre dans l'écriture. Il n'est pas question de faire un tri. Comme on a coutume de les lire dans l'Église catholique, et tels qu'on les trouve dans l'ancienne édition latine de la Vulgate. Attention, la Vulgate, qui est le texte officiel de l'Église. S'il méprise de propos délibérés les traditions, susdites, qu'il soit anathème. Délicieux. Anathémacite. Voilà. Pour celui-là, il n'est pas catholique, c'est tout. Celui qui refuse de prendre toutes les saintes écritures et qui refuse les traditions non écrites, il n'est pas catholique. On ne lui fait pas de mal, mais enfin, qui ne vient pas lui dire qu'il est catholique, c'est tout, alors qu'il se taise, simplement. Ou bien qu'il ne part pas dans nos églises. C'est la moindre des choses. Bon. Oui, ça, c'est l'enseignement constant. Un autre passage encore, ça, c'est Vatican I, un texte peut-être un peu plus connu et parfois un petit peu difficile d'interprétation, du moins dans sa dernière partie, mais enfin. C'est Vatican I, dans sa constitution dogmatique sur la foi catholique. On doit croire deux fois divine et catholique. Oui, on doit croire deux fois divine, le même acte de foi, donc. Hein. Tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise. Écrite ou transmise. La parole de Dieu écrite ou transmise. Avec même valeur hein, pour les saintes écritures et pour la tradition. Et que l'Église, bien sûr, propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire et universel. Bon, c'est là une question un petit peu disputée. Question du magistère ordinaire universel. C'est vrai que ce n'est pas très, très facile. Oui, donc cette tradition. Et cette tradition, eh bien, c'est un petit peu cela, si vous voulez, que l'Église a codifié justement dans ses définitions d'Église. C'est ça qu'elle a voulu fixer, hein, bon, notamment pour l'interprétation de l'Écriture. Que, si vous voulez, bon, c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'a voulu dire tel ou tel écrivain sacré, tel ou tel apôtre. Bon, eh bien, l'Église a scruté depuis 2000 ans ses saintes Écritures, elle scrute depuis 2000 ans ses traditions, et ensuite elle parle. Elle parle et elle définit la foi. Voilà quelle est la signification de tel passage de l'Écriture. Voilà quelles sont les vérités de foi auxquelles nous devons croire. Et la parole de l'Église, contenue dans ses enseignements, elle a autant d'autorité, autant de valeur que la parole de Dieu. La parole de l'Église, c'est la parole de Dieu. Si l'Église est véritablement le corps mystique, si l'Église est assistée par l'Esprit Saint, quand l'Église parle, c'est Dieu qui parle. Donc, même autorité. Autorité équivalente. Quand je vous parle de l'Église, bien sûr, l'Église avec un grand, attention, l'Église sainte, une sainte catholique et apostolique, je ne parle pas de l'appareil hiérarchique. Bon, ça c'est autre chose, hein. La question des hommes d'Église qui malheureusement ne sont pas toujours identiques à l'Église. Oui, c'est pourquoi donc, nous irons puiser un petit peu dans l'essentiel hein, de nos conférences, de nos réflexions, dans ces deux livres. Et puis il y aura un troisième livre, bien sûr, dont nous nous servirons, que j'essaierai de vous rendre accessible. Ça fait toujours peur un petit peu quand on en parle. C'est la somme théologique, bien sûr, de saint Thomas d'Aquin. Et oui, ce grand saint Thomas d'Aquin, qui est beaucoup plus simple qu'on ne le dit. Il ne faut pas avoir peur de lui, simplement. Il faut ouvrir la somme et puis commencer à lire. Bon, demain, on ne comprend pas très bien, peut-être, puis demain, on comprend. Mais voilà, ça fait du bien, quoi. Il est beaucoup moins difficile quand même qu'on ne le croit. Je veux bien qu'il ait besoin parfois d'être un peu commenté, expliqué. Eh bien, c'est ce que nous ferons. Donc nous allons commencer, après ces longs préambules, là, essayer de commencer un petit peu à suivre justement l'ordre de notre bon père Dumège, hein, qui était un bon père jésuite, qui l'est toujours d'ailleurs je crois, j'espère du moins. Par quoi commence-t-il? Nous ne suivrons pas exactement tous les chapitres qu'il étudie. Il commence par les symboles de foi, ouais, bon, ces symboles, ces définitions donc, de l'Église, ouais, les grands symboles de foi. Ensuite, les questions relatives à la révélation, bon, voilà, nous l'avons évoqué rapidement, voilà. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, il y aurait trop de choses à dire, on ne peut pas tout dire non plus. Questions relatives à la tradition et à l'écriture, et alors ensuite, justement, l'exposé de Dieu, Dieu un et trine. Bon, bien sûr, il y a des questions magnifiques là-dedans, mais parfois un petit peu difficiles. Bon, j'espère que vous croyez en Dieu d'abord, ça. Là-dessus, je pense que tout va bien. Croyez que Dieu est un et qu'il est à la fois trinitaire. Il y a trois personnes de la Sainte Trinité. Bon, une fois ou l'autre, peut-être, nous pourrons traiter la question, mais je préfère arriver justement à une autre question qui est mal connue. Eh bien, justement, c'est la question de l'action de Dieu. Ouais. Bon, non seulement Dieu est, Il est en lui-même, il est, bien sûr, il est trinitaire, trois personnes au sein de la divinité, bien sûr, mais en plus Dieu agit. Il ne se contente pas d'être, d'exister, d'être heureux, de jouir de sa perfection, mais en plus, eh bien voici que Dieu, dans un acte incompréhensible, c'est invraisemblable, d'amour, ouais, d'amour libre, d'amour gratuit, un beau jour, bon, façon de parler, hein, parce que pour le bon Dieu, il n'y a pas de beau jour, hein, c'est... Bon, voilà, il n'y a pas de temps pour le bon Dieu, ça aussi c'est une question difficile, l'éternité. N'essayez pas de vous représenter ce qu'est l'éternité, je vous en supplie, sinon vous allez exploser. C'est inconcevable. On ne peut pas imaginer l'éternité. L'éternité qui n'est pas une succession comme ça, sans fin, de jours, de semaines, de mois, d'années, de siècles et de millénaires, ce n'est pas ça l'éternité. Ce n'est pas une succession sans fin, non, 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 c'est un instant unique. Un instant unique, éternel. Bon, alors essayez pas de vous représenter la chose, parce que on peut pas. Alors, méfiez-vous, vous allez vous faire exploser quelque chose dans la tête, ça, c'est pas possible, simplement. C'est précisément l'éternité, c'est l'absence de temps, c'est l'absence de succession, c'est l'absence de changement. Dieu ne change pas. Bon, et voilà pourtant que dans cette éternité dans laquelle Dieu ne change pas, eh bien, il y a, si on peut dire, des choses qui se passent, oui, toutes ensemble. Mais pour nous, c'est pour nous, eh bien, que les choses vont être successives. Oui. Alors que pour Dieu, tout se déroule en même temps, eh bien, voilà, pour nous, ça se déroule l'une après l'autre. Et quelle est la première chose qui se déroule? Eh bien, précisément, c'est la création. Ça, c'est la création. C'est la première, le premier acte, si vous voulez, par lequel Dieu sort de lui-même. Voilà, Dieu agit au-dehors de lui-même, c'est la création. Et pourquoi Dieu crée-t-il? C'est un grand mystère, ça. Parce que Dieu a tout ce qu'il lui faut en lui-même. Dieu est parfait, il a toute la béatitude possible et imaginable. Il n'a besoin de rien, Dieu n'a pas besoin de nous. Enfin, mettez-vous bien ça dans la tête, enfin, mettons-nous bien ça dans la tête. Dieu n'a pas besoin de nous, absolument pas. Ce n'est pas par un besoin, par une nécessité, ce n'est pas pour ajouter quelque chose à son bonheur que Dieu crée le monde. Il n'a absolument pas besoin de nous. Je dirais même au contraire, s'il nous a créés pour ajouter à son bonheur, ben, je crois que c'est loupé. Hein. Parce qu'avec toutes les bêtises que nous pouvons faire du matin jusqu'au soir... Il y a un problème, mais c'est donc pas pour ça que Dieu nous a créés. Ouais. Ce n'est pas pour son bonheur à lui, mais et ça, c'est justement cet acte extraordinaire, ouais, si on peut dire plutôt, cette particularité de l'amour en Dieu, qui est à l'inverse de l'amour chez les hommes. Pourquoi nous avons du mal souvent à réaliser ce que c'est que l'amour, la charité, véritablement, ouais. Pour nous, nous aimons quelque chose parce que la chose est bonne. J'aime bien les babas au rhum parce que c'est bon, ça me fait plaisir. J'aime bien, je sais pas qui, Pierre, Paul ou Jacques, parce qu'il est sympathique, parce qu'il est gentil avec moi. Oui. Une chose est bonne, alors du coup, je l'aime. Eh bien, en Dieu, c'est l'inverse. En Dieu, c'est l'inverse. Oui. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, mais nous sommes bons parce que Dieu nous aime. Mais si vous voulez, mettez-vous un petit peu, c'est une expérience un petit peu difficile, mais enfin, mettez-vous à la place du bon Dieu, dans son éternité, voilà. Il est tout seul, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils se regardent, ils se connaissent, ils s'aiment, ils sont parfaitement heureux. Bon, imaginons, nous sommes toujours un petit peu dans l'imagination. Imaginons qu'ils regardent un petit peu autour d'eux. Qu'est-ce qu'il y a autour d'eux? Il n'y a rien. Il n'y a que Dieu, c'est tout. Alors comment voulez-vous qu'ils se mettent à aimer quelque chose qui n'existe pas encore? Puisque l'homme n'existe pas, le monde n'existe pas. Comment voulez-vous que l'amour de Dieu soit commandé par quelque chose de bon en dehors de lui? C'est pas possible. Non, non, c'est l'amour de Dieu qui sort de lui pour créer quelque chose qui soit bon, quelque chose qui soit parfait. Et pourquoi Dieu crée-t-il ainsi quelque chose? Eh bien, pour rendre heureux, pour communiquer sa perfection, communiquer son propre bonheur. Ouais. Et ça, dirais-je, nous comprenons peut-être un petit peu mieux cela, du moins pour ceux qui ont le cœur droit. Et il est vrai que le plus grand des bonheurs, la plus grande des joies d'un cœur pur, d'un cœur qui soit saint, eh bien, c'est de rendre heureux quelqu'un d'autre que soi. Et oui, bon, je pense que ce n'est pas trop difficile à comprendre. On est prêt à se priver de tout un tas de choses pour faire plaisir à quelqu'un que l'on aime. Regardez les amoureux, ils sont même un peu gâteux, des fois on a envie de se moquer d'eux. Hein, dès qu'ils sont amoureux, ils sont prêts à faire trois fois le tour du monde pour aller, je ne sais pas quoi faire, mais enfin des tas de trucs, pour faire plaisir à la fiancée ou au fiancé. Bon, en soi, ce n'est pas défendu, mais enfin, voilà, attention. Mais voilà, pourquoi? Eh bien parce qu'on est prêt à se fatiguer, on est prêt à se dépenser, on est prêt vraiment à beaucoup de renoncements pour le bonheur de quelqu'un d'autre que soi, quelqu'un que l'on aime. Oui. Voilà, simplement. Oui. Eh bien, c'est un petit peu, il y a ce mouvement, un certain reflet de cet amour qui est en Dieu. Voilà. Dieu qui donne, non pas pour lui, non pas pour se faire plaisir à lui, mais pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ouais, pour réaliser le bonheur de quelqu'un d'autre que lui. Et donc, c'est la création, ouais, ce premier acte de la bonté divine, c'est la création. Alors, il faudrait, mais ça, nous ne le ferons pas, ce serait trop long, examiner un petit peu même le récit biblique de la création, qui est très beau, hein, cette œuvre des six jours. Cette œuvre des six jours, ce qu'on appelle, ce que saint Thomas d'Aquin appelle l'œuvre des six jours, la création qui est faite en six jours, lesquels six jours, bien sûr, hein, attention, hein, ne désigne pas six jours tels que nous les comptons aujourd'hui. Hein. Ben, donc ce sont sept périodes, sept périodes dans l'histoire de la création, six interventions plutôt, de Dieu dans la création. La création s'est faite donc par étapes différentes. Ouais. Dieu, petit à petit, a produit les êtres de façon successive. Le premier jour, la lumière et les ténèbres. Ouais. De toute façon, la lumière et les ténèbres, pas encore les astres, voyez. Ouais. Pas encore le soleil, non, il n'y a pas encore de soleil. Ouais. Et c'est pourquoi, voyez, pour le premier jour, il est difficile de dire que le premier jour corresponde à une rotation de la Terre autour du soleil, ou je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Ouais. Mais est-ce que le soleil n'existe pas encore? Comment voulez-vous que la Terre tourne autour du Soleil qui n'existe pas? Non, création de la lumière et des ténèbres. La lumière, tout simplement. Sans Soleil, sans Lune, sans étoiles, sans rien. Pas encore. Ouais. Lumière et ténèbres. Le deuxième jour, c'est le firmament et les eaux. Le ciel, si vous voulez. Et puis les eaux. Le troisième jour, c'est la Terre. Et puis les plantes. La Terre, les eaux et les plantes. Ouais. Et puis ensuite, là, saint Thomas d'Aquin appelle ça les trois jours suivants. Il appelle ça l'ornementation du monde corporel. C'est très beau, ça, je trouve. Vous voyez, c'est un petit peu le décor. Voilà. Il y a l'essentiel, un petit peu, de la créature, de la création. Et puis, voit que le bon Dieu va mettre quelques petits suppléments pour agrémenter la terre, qu'elle soit un peu plus belle. Ouais. Et Dieu, comme ça, prépare petit à petit la terre pour l'homme. Hein, car la finalité, c'est l'homme. La terre est créée pour l'homme. Alors, justement, la première ornementation, ce sont les astres lumineux. Voilà, c'est pour mettre un peu de belles choses dans le ciel, que l'homme se... regarde un petit peu, admire les étoiles, la lune, le soleil, tout ça. Bien. Donc les astres lumineux. Le cinquième jour, ce sont les poissons et les oiseaux, qui en soi ne sont pas strictement nécessaires. On pourrait vivre sans oiseaux, sans poissons. Enfin, ce serait dommage quand même. Hein. Petits oiseaux, c'est mignon comme tout. Hein. Bon. Et puis le sixième jour, ce sont les animaux. Vous voyez cette progression-là. Et cette progression qui est faite à chaque fois par une intervention directe de Dieu. Hein. C'est Dieu qui crée les animaux. Hein. C'est pas le petit poisson qui devient oiseau et qui ensuite devient, lapin et qui ensuite va devenir singe et qui va finir par devenir un homme. Ouais, non, c'est pas ça. C'est Dieu qui, à chaque fois, crée les êtres dans leur espèce, dans leur genre et dans leur espèce. C'est lui qui intervient à chaque fois. Et enfin, bien sûr, le dernier objet de la création, ce pourquoi tout le reste a été disposé, justement, c'est l'homme. Ouais. Tout cet ensemble-là fait uniquement pour nous, pour moi, pour vous. C'est extraordinaire. Ouais. Se dire quand même, et de temps en temps, il est bon de s'y arrêter, hein, de regarder un petit peu toute cette nature extraordinaire, merveilleuse, hein, et de dire, mais qu'est-ce qu'il a, le bon Dieu, quand même. Il est fou d'avoir fait tout ça pour moi. Pour moi, tout simplement. Voilà, un coucher du soleil, c'est merveilleux, un beau coucher du soleil, etc., avec des couleurs extraordinaires. Et pourquoi le bon Dieu s'amuse-t-il à faire des choses aussi belles? Voilà, pour me mettre un petit peu de joie au fond du cœur. Oh, dites donc. Je dis oui, ça. Mais il faut y penser, parce que c'est vrai. À quoi ça sert, sinon? Un beau coucher du soleil, à quoi ça sert? Ça sert à rien, en soi. Que ce soit beau ou laid, de toute façon, le soleil se couche. Pareil, ça ne change rien au problème. Et pourquoi c'est si beau? Eh bien, pour moi. Pour moi. Voilà. Pour me faire plaisir. Et il est bon, le bon Dieu. Dis donc. Et puis, enfin, le septième jour, bon Dieu, souffle un petit peu, si on peut dire. Bon, attention, ce repos de Dieu, au septième jour, ce n'est pas le repos tel que nous le concevons, nous. C'est un petit peu ce bonheur de Dieu, qui contemple sa création, sa création là, qui est parfaite. Et Dieu avait tout fait dans la perfection, dans l'ordre. Ouais. Voilà. Un monde extraordinaire pour l'homme. Ouais. Alors bien sûr, il y a la création de l'homme, et c'est à cela que nous allons nous arrêter un peu plus. La création de l'homme qui nous est racontée donc dans les premiers chapitres de la Genèse. Chapitres de la Genèse qui ont été bien sûr très combattus par tous les rationalistes, les modernistes et tout ce que vous voudrez, hein, tous ces gens-là justement qui veulent évacuer le sens littéral, le sens véritable, le sens historique de ces livres de la Bible, surtout les 11 premiers chapitres de la Genèse, qui nous raconte un peu justement la création du monde et le début de l'histoire des hommes, hein, le péché originel, tout cela. Mais il est sûr que tout cela, c'est gênant pour les scientifiques, pour les rationalistes, parce que ben, voilà, ils voudraient démontrer que le monde existe sans Dieu, mais que le monde n'a pas besoin de Dieu pour exister. Alors évidemment, le chapitre de la Genèse est un peu embêtant. À chaque fois, pouf, c'est le bon Dieu qui crée, c'est le bon Dieu. Non, il faut arriver à démontrer que non, c'est un Big Bang ou je sais pas quoi, un truc, machin comme ça, qui s'est débrouillé tout seul, sans l'intervention de qui que ce soit. Eh bien non. Et l'Église, là-dessus, vous voyez également, a parlé. Attention, ça, nous ne pouvons pas, dans toutes nos... Nous avons peut-être des discussions avec des gens qui se posent des questions là-dessus. Attention, il ne s'agit pas de laisser tomber justement ces premiers chapitres de la Genèse et de nous laisser emporter à Dieu, mais ce sont des poèmes, ce sont des... Voilà, une sorte de symbole, oui. Bon, non, c'est pour essayer de faire comprendre aux petits imbéciles que nous sommes, eh bien, comment ça a démarré. Non, attention, hein. Ça n'est peut-être pas historique au sens où on l'entend aujourd'hui, hein, cette histoire rigoureuse avec des preuves et des démonstrations scientifiques, oui, mais c'est historique quand même. Oui. Voici quelques déclarations, définitions de l'Église, par exemple. Une déclaration de la Commission biblique, hein, c'est notre bon Saint-Pédis, hein, qui justement au début du siècle, devant tous les assauts des rationalistes, des modernistes, avait institué une commission publique, oui, et qui se penchait un petit peu sur toutes ces questions, justement, qui en fait n'a pas été instituée par Saint-Pédis, c'est une erreur. C'est l'enregistrement va pouvoir témoigner de mon hérésie, mais ça fait rien, c'est Léon XIII, mais enfin, c'est presque la même chose. Donc cette commission biblique, justement, pour expliquer un petit peu, oui, trancher dans toutes ces questions difficiles de l'interprétation des Écritures. Alors voici, par exemple, une question qui avait été soumise à cette commission biblique. Est-il possible de révoquer en doute, c'est-à-dire de remettre en doute, donc de repousser, le sens littéral historique lorsqu'il s'agit de faits racontés dans ces mêmes chapitres, donc les 11 premiers chapitres de la Genèse, qui touchent au fondement de la religion, comme sont, entre autres, la création de toutes choses faites par Dieu au commencement du temps, la création particulière de l'homme. Est-ce que c'est vraiment une création, un acte particulier de Dieu pour la création de l'homme, la formation de la première femme à partir du premier homme. Oh, est-ce que c'est pas une blague, ça, quand même? Bon. La formation, oui. L'unité du genre humain, donc un seul homme au départ, et pas une multitude, ce qu'on appelle le polygénisme. Non, un seul au départ. Le bonheur originel des premiers parents dans l'état de justice, d'intégrité et d'immortalité. Le commandement fait par Dieu à l'homme pour éprouver son obéissance. La transgression du commandement divin à l'instigation du diable sous la forme du serpent. Un serpent, un vrai serpent. La déchéance des premiers parents de cet état primitif d'innocence, ainsi que la promesse du Rédempteur à venir. Vous voyez, toutes ces questions-là, est-ce qu'on peut, les révoquer en doute? C'est clair. C'est fini. Alors, on ne peut pas douter de la vérité historique de ces événements-là. Pie XII également traitera la question de Humani Generis, une belle encyclique sur Humani Generis aussi. Ouais. Voyez ce qu'il dit encore. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, quoiqu'ils ne répondent pas de façon rigoureuse au concept de l'histoire, qui fut celui des grands historiens grecs et latins, ou qui est celui des maîtres de notre temps, bon, peut-être, c'est pas de l'histoire comme on l'a fait aujourd'hui, très événementielle, etc., à la limite du journalisme, pour eux. L'histoire contemporaine, moi, ça me fait un petit peu rigoler. Hein. C'est du journalisme, ça. Ouais. Comment voulez-vous porter un jugement sain, serein, ouais, objectif sur des événements qui datent de 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans? On est encore en plein dedans. On n'a pas suffisamment de recul. Ouais, c'est d'histoire contemporaine, c'est pas vraiment d'histoire encore. Bon, enfin, fermons la parenthèse. Donc, ces 11 premiers chapitres, bon, avec cette petite réserve, toutefois appartiennent en un sens véritable au genre historique. Ils appartiennent au genre historique. Ces mêmes chapitres d'un style simple et figuré, c'est sûr, c'est un style simple, figuré, avec peut-être un peu de poésie, bon, pour expliquer, pour faire comprendre. Donc d'un style simple et figuré tel qu'il convenait à la mentalité d'un peuple peu cultivé. C'est sûr, hein, les Hébreux au désert, hein, bon, hein, ils avaient la tête dure, hein, mais ces cinq premiers... Le Pentateuque a été écrit par Moïse, hein, nous l'oublions pas. Bon, Moïse, il avait affaire à des gens qui avaient la tête dure. Hein. Alors, pour leur faire comprendre un petit peu tout ça, il fallait employer un style un peu simple, un peu figuré, bien sûr. Donc, ces mêmes chapitres rapportent les vérités essentielles sur lesquelles repose la poursuite de notre salut éternel. Ils décrivent de façon populaire l'origine du genre humain et celle du peuple élu. Si les hagiographes anciens ont pris quelque chose aux narrations populaires, ce que l'on peut accorder, qu'ils ont emprunté peut-être un petit peu à quelques traditions, quelques histoires un peu populaires, peut-être. Il ne faut jamais oublier qu'ils l'ont fait aider de l'inspiration divine. Attention, hein. Ils l'ont fait sous l'inspiration de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, aider de l'inspiration divine qui les gardait de toute erreur dans le choix et l'appréciation de ces documents. On ne peut donc d'aucune façon mettre les récits populaires accueillis par les livres saints sur le même plan que les mythologies ou autres récits semblables, qui sont plus le fruit du jeu de l'imagination que du goût de la vérité et de la simplicité. Il ne s'agit pas, vous voyez, de regarder ces premiers chapitres de la Genèse avec un œil un peu sceptique. Bon, ça, ce sont des enfantillages, vous voyez, des symbolismes, des poèmes, etc. Qu'il y ait de la poésie, oui, mais il y a aussi de la vérité, et beaucoup plus de vérité que de poésie. Alors, qu'en est-il justement de cette création de nos premiers parents, hein? Bon, il suffirait à la limite de lire un peu les passages de l'Écriture qui en parlent, et puis de les accepter avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, comme étant l'expression de la vérité, hein? Bon, vous connaissez, je pense, ces récits qui nous sont faits dans la nuit de Pâques, magnifique tout cela, oui. Ça aussi, c'est plein de symbolisme, de signification. Hein. D'abord, la narration donc de la création dans les six jours. Et puis voici que Dieu plante un jardin en Éden du côté de l'Orient. Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Hein. Dieu qui prend un peu de poussière du sol, qui souffle dans ses narines un souffle de vie. Donc il insuffle la vie dans cette matière. Hein. Donc il donne une âme, qui crée une âme. Le souffle de vie, c'est l'âme, tout simplement. Et l'homme devient un être vivant. Voilà. Tout simple. Pourquoi se casser la tête là-dessus? Moi, je trouve ça très beau, très simple, et moi, ça me satisfait tout à fait. Même si je n'ai pas la preuve scientifique de la chose. Ça me suffit. Et puis voilà Dieu qui plante un jardin du côté de l'Éden et qui y place l'homme. Voilà. Et qui place au centre de ce jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Bien. Et voilà Dieu qui place l'homme donc au centre de ce jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et Dieu donne à l'homme cet ordre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, tous. Allez, vas-y, c'est pour toi, ça. Merveilleux. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est simple, pourquoi? Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça, cet arbre-là, non, n'y touche pas. La connaissance du bien et du mal, ouais, cette connaissance, donc parfaite de toute chose, eh bien ça, c'est le privilège de Dieu. Donc n'essaie pas, eh bien, de t'approprier ce qui est mon privilège. Voilà. Reste, reconnais que tu es ma créature, reconnais bien que tu es moins que moi. Donc ne touche pas à cet arbre-là, hein, c'est mon privilège. Et tout le reste, vas-y. C'est déjà pas mal, quoi. Hein, moi, je sais pas, mais... Et puis voilà que Dieu considère l'homme. Ah, putain, l'homme, il est seul, le pauvre. Oh, pauvre homme qui est tout seul. Bon, et qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Adjutorium sibi simile, une aide semblable, mais quelqu'un pour l'aider. Voilà. Et il y avait Dieu qui avait, etc. Donc Dieu qui regarde un peu tous les animaux de la terre, mais qui ne trouve pas parmi les animaux, vous voyez, mesdames, c'est très consolant quand même, qui ne trouve pas cette aide, vous voyez, semblable à l'homme. Non, quand même, ça ne va pas, c'est pas bon. Bon, vous voyez, quand même. Alors Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Hein, il endort Adam. Petite anesthésie. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Voilà, la côte. Et exsolé. Moi, je ne sais pas pourquoi certains iraient s'offusquer, moi, que la première femme ait été tirée comme ça de l'homme. Que s'il y a d'offense en rien. Je ne vois pas. Enfin, voilà, donc la femme qui est faite, le moment qui est tirée, qui est prise de la chair même de l'homme. Ouais. Et tout cela est très, très riche, ouais, de conséquences et de significations. Notamment, justement, pour la théologie du mariage. Ouais. Hein, ils ne seront qu'un dans une même chair, etc. Mais, parce qu'au départ, l'homme et la femme sont tirés de la même chair. La femme est tirée de l'homme. Il hein. Y a identité, quasiment, vous voyez. Alors, en plus, restaurée par la grâce du sacrement de mariage, il y a comme on retrouve un peu l'identité, vous voyez, de nature, vous voyez, de chair même, entre l'homme et la femme. Ouais. Très beau, cela. Et l'homme dit... Et referma la chair à sa place. Oui, en plus, on recouvre. Oui, c'est encore mieux. Dieu, Yahvé, de la côte qu'il avait prise de l'homme, Yahvé, Dieu, forma une femme et il l'amena à l'homme. Et l'homme dit, Celle-ci, cette foi, est eau de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ils étaient nus tous les deux, l'homme et la femme, sans en avoir honte. Vous voyez, déjà, rien que ça, c'est une petite idée de l'abîme qui nous sépare, nous, aujourd'hui, bien de cet état de perfection originelle. Et puis ensuite, eh bien, il y a le récit du péché originel. Et oui, ça. Vous voyez, cette question de la création de la femme à partir de l'homme, saint Thomas d'Aquin, bien sûr, l'examine. Bien sûr, il examine tout. Et il en donne toute une série de raisons. Eh oui, bon, tant pis. Hein, voilà. Mais donc, je vous dis ce que dit saint Thomas d'Aquin. Enfin, vous verrez. Bon. Cela procura d'abord au premier homme. Attention, au premier homme, hein, attention, messieurs. Hein, au premier, les hommes actuels, c'est autre chose. Hein, bon. Au premier homme, une certaine dignité. En ce que, à la ressemblance de Dieu, il était ainsi le principe de la totalité de son espèce. Vous voyez, comme ça, Adam, eh bien, était établi dans une dignité incomparable, du fait, eh bien, qu'il était un peu comme Dieu était et au principe de toute la création, eh bien, Adam était au principe de toute la race humaine. Vous voyez, c'était vraiment de lui, d'Adam, que sortirait la totalité de la race humaine, puisque sa femme elle-même sortait de lui. Vous voyez. Donc, une dignité encore plus grande. Vous voyez. Deuxièmement, ce qui n'est pas négligé non plus. L'homme, ainsi, aimerait davantage la femme. Et oui, parce qu'elle est quelque chose de lui. Ouais. Et que saint Paul le dit, cet épître de la messe de mariage, ouais, explique un peu tout cela. Ouais. Nul ne hait sa propre chair. Alors si la femme est la chair même de l'homme, comment un homme peut-il ne pas aimer son épouse? Et puisque c'est la chair de sa chair. Ouais. L'homme, ainsi, aimerait davantage la femme. Et s'attacherait à elle de façon plus inséparable, sachant qu'elle avait été produite de lui. Oui, bien sûr. Et ceci étant d'ailleurs particulièrement nécessaire dans l'espèce humaine, où l'homme et la femme demeurent ensemble pendant toute la vie, à la différence des autres animaux. Ben, c'est sûr que pour, hein, bon, vous savez mieux que moi, ça, je pense. Hein, bon, voilà. Pour être fidèle toute une vie, ben, ouais, il faut une bonne qualité d'amour. Hein, bon. Et si l'on a cette considération. Bien que la femme a été tirée de sa propre chair, bien on a peut-être plus d'inclination à aimer son épouse, même les jours où ça ne va pas très bien. Ou bien si l'épouse commence à avoir quelques rides ou quelques cheveux blancs, ben oui, elle est toujours aussi belle. Toujours aussi belle. Une troisième convenance, bon ça c'est un peu moins intéressant. Et la quatrième est très belle, moi c'est ce que je trouve la plus belle. Et de l'enchaînement de la typologie. Et ça, c'est toute l'épître de saint Paul, ouais, de la messe de mariage, hein, Sacramentum Magnum. Oui, ce mystère est grand, et je l'ai dit, du Christ et de l'Église. Et voilà, voilà le grand symbolisme, ouais, caché dans la création de la femme à partir de l'homme. Par là, en effet, se trouve figuré le fait que l'Église prend son principe dans le Christ. Oui, c'est beau. Et oui, l'Église qui est tirée du côté du Christ. L'Église qui naît du cœur de Jésus-Christ, ouais, voilà. Eh bien, c'est pareil. Ouais, ce premier symbolisme-là de l'Église tirée du côté du Christ par la femme tirée du côté de l'homme. Ouais. Vous voyez un petit peu toutes ces richesses contenues là dans un passage de l'Écriture. Ouais, c'est magnifique tout cela. Alors, c'est pourquoi, mesdames, faut pas avoir de scrupules ou de je ne sais quoi. C'est une coquetterie. Mais on a quand même nous tirés de la côte de l'homme. Mais c'est très beau, c'est très beau. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une quelconque infériorité, attention, c'est un autre problème, ça. Messieurs, attention, hein, n'allez pas inférer de cette origine-là une quelconque supériorité sur les épouses, ça, non. Ça n'a rien à voir avec une question de supériorité ou infériorité. Alors, il s'agit maintenant un petit peu de considérer, bon, puisque l'homme et la femme ont été créés par Dieu directement, de considérer un petit peu justement dans quel état, c'est un petit peu cela que je voulais vous exposer aujourd'hui, dans quel état, eh bien, ils étaient. Oui, nous en avons eu un petit avant-goût dans le texte de l'Écriture lui-même. Et ce qu'on appelle cet état de la justice originelle. Qu'est-ce que c'est que cette justice originelle? Eh bien, justement, c'est cette perfection, ce que les théologiens appellent la rectitude parfaite, accordée à l'homme par Dieu, avant le péché, dès sa création. Ouais. Une rectitude parfaite. Cet état de perfection, gratuitement, attention, hein, tout ça est gratuit. Dieu l'a fait uniquement pour nous. Il a voulu créer l'homme et la femme dans un état de perfection que nous avons du mal à réaliser, à imaginer. C'est sûr, quand nous nous considérons, Et on est tous déglingués, nous. On est tous déboussolés, on est tous détraqués. On dit, mais enfin, dans quel état étaient nos premiers parents? Alors évidemment, la grande objection, bien, ce sont les évolutionnistes qui vous disent que vous descendez du singe. Alors, moi j'aime beaucoup cette réponse qu'une petite du catéchisme du temps où je faisais catéchisme à Paris. Voilà, une petite qui avait bien appris le catéchisme que je lui ai enseigné et qui un jour, à l'école, la maîtresse lui dit, voilà, l'homme descend du singe. Et voilà le petit bout de chou qui dit, Madame, vous peut-être, mais pas moi. Terminé. Ah non, moi je descends de Dieu. Moi. Oh, pardon. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est irréfutable, ça. Bon, je ne sais pas trop ce qu'a répondu la maîtresse, mais je crois qu'elle n'était pas très satisfaite. Oui. Bon. C'est aberrant. Oui. C'est Louis Junier aussi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Louis Junier, ce grand philosophe qui est malheureusement décédé. Qui a fait pas mal d'articles contre l'évolutionnisme, justement, qui d'ailleurs est aujourd'hui abandonné par tous les gens intelligents. Il n'y a que les abrutis un peu attardés qui ne lisent pas le journal, qui croient encore à l'évolutionnisme. Non, ça ne tient pas debout, ça ne tient pas debout. Même scientifiquement, ça ne tient pas debout. Bon, enfin ça. Et donc, Louis Junier, une petite considération un peu humoristique peut-être, mais vous vous rendez compte, si l'homme descend du singe, ça veut dire que le premier homme a dû dire maman à une guenon. Et si c'est ça la dignité de l'homme, merci. Non, moi j'en veux pas. Moi. Non. Je préfère dire maman à une vraie maman. Moi. Voilà. Ben oui, c'est tellement grotesque ce genre de choses. Aberrant. Bon, enfin. Donc bien sûr, c'est la grande objection évolutionniste, savoir que l'homme primitif aurait été un peu faible intellectuellement, un peu demeuré, un peu abruti, vous voyez, traînant les mains, traînant les pattes, traînant tout ce que vous voudrez. Vous voyez. Et l'histoire, au contraire, eh bien, prouve le progrès de l'humanité et non pas sa déchéance. Regardez, au contraire, ouais, plus on avance, plus on est intelligent. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites, hein, ce n'est pas les anciens, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Bien sûr, toutes ces réponses que moi je vous donne sont des réponses, je dirais, qui sont tirées de la foi. Je crois qu'il ne faut pas. Nous sommes catholiques. Nous sommes catholiques, il ne faut pas hésiter de temps en temps à acclamer sa foi et à donner tout simplement des réponses qui sont jaillies de notre foi. Mais si Dieu est Dieu, si Dieu est parfait, si Dieu est infiniment sage, Dieu ne peut pas louper, si on peut dire, sa création. Et donc l'homme, tel qu'il est sorti des mains de Dieu, il n'a pu être que parfait. Tout l'univers a été créé dans un état de perfection extraordinaire. Pourquoi seul l'homme aurait-il été créé dans un état d'infériorité? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça sort ça? Enfin, c'est une affirmation purement gratuite, et qui ne repose sur rien, même pas sur des constatations scientifiques. Même pas sur des constatations scientifiques. Tous ces bouts de squelettes qu'on nous trouve à droite et à gauche, ce ne sont pas des hommes qui sont au départ d'une chaîne. Au contraire, ce sont des restes de races dégénérées. Non, ce sont des races qui n'ont pas survécu. Ce sont des dégénérés. Ce ne sont pas des hommes qui étaient au point de départ d'un progrès. Non, au contraire, ce sont ceux qui sont au point d'arriver d'une déchéance. Bon, alors, s'ils ont le crâne un peu bas, ben, c'est peut-être qu'ils étaient un petit peu dégénérés. Ouais. Et Dieu crée par son intelligence, il crée dans sa sagesse, il n'a pas besoin de faire un brouillon pour lui. Pas la peine, ça. Pas la peine. Hein. Et l'homme, quand il sort des mains de Dieu, il sort dans son état de perfection avec sa nature intègre. Et dans une nature qui n'est pas démolie, qui n'est pas blessée, qui n'est pas. Attendez, dans l'état dans lequel est notre nature aujourd'hui. Ça, c'est la réponse du bon sens de la foi, tout simplement. Dieu est Dieu. Hein. Ou bien alors, Dieu n'est pas Dieu. Bien, Dieu. Dieu n'est pas parfait, donc Dieu n'est pas Dieu. Et puis, je dirais, rien ne prouve, justement, hein, toutes ces grandes considérations scientifiques que l'on veut nous faire. Hein, rien ne prouve, rien n'est vraiment probateur de ce progrès de l'humanité. Hein. Rien ne prouve que l'homme ancien ait été moins intelligent que l'homme actuel. Et même au contraire, semble-t-il, parfois, ben, dans certaines découvertes, on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas si bêtes que ça. Hein, et que même ils avaient découvert des choses que nous avons oubliées aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de certaines choses dont eux étaient capables. Alors, hein, qui est le dégénéré entre les deux là? Est-ce que ce ne serait pas nous, hein? Il est certain que l'humanité a fait des progrès. Il est vrai, mais les progrès de ce monde civilisé, dites-moi, de quel ordre sont-ils? De l'ordre matériel? D'accord, oui, ça d'accord. Progrès technique, progrès matériel? D'accord. Mais progrès moral? Progrès spirituel? Non. Non, progrès spirituel, non. Plutôt une dégénérescence spirituelle et une dégénérescence morale. Bon, je crois que ce n'est pas la peine de faire de longs commentaires. L'état dans lequel s'enfonce l'humanité, ben, ce n'est pas un état de progrès moral et de progrès spirituel. Alors, qui est le dégénéré? Qui est le dégénéré, hein? Et c'est une autre observation, ça que font même tous les ethnologues et tous les historiens des religions, etc. Eh bien, c'est que dans tous les peuples, pratiquement, qui ont pu être observés, bien, on s'aperçoit que le monothéisme a toujours précédé le polythéisme. Et le polythéisme, c'est-à-dire la vénération de plusieurs dieux, a toujours été. A toujours été postérieure au monothéisme. Au départ, l'homme adore d'abord un seul Dieu. Et c'est ensuite, eh bien, à cause de la faiblesse, à cause des désordres, tout ce que vous voudrez, eh bien, l'homme se met à adorer plusieurs dieux, et même à s'adorer lui-même, à adorer des fausses divinités, des idoles, etc. Mais c'est toujours, au départ, vous voyez, l'unicité qui prime. De même dans la forme politique. Dans la forme politique, bon, ben voilà. Même en Suisse, on peut le dire, je pense, quand même. Et dans si on regarde un peu l'histoire des peuples, mais généralement, la monarchie a toujours précédé la bureaucratie, appelez ça comme vous voudrez, ou la démocratie même. Au départ, même dans une famille, il y a un chef. Et bien le peuple, la cité, a toujours été un peu l'extension, le développement de la constitution familiale, avec au départ un chef. Oui. Et ce n'est qu'après, dans les périodes de dégénérescence, que le gouvernement a quitté un seul pour être confié à plusieurs. Et c'est alors la pagaille. Je parle du principe du gouvernement. Hein. Je ne parle pas là du mode d'élection du chef. Ça, c'est un autre problème. Oui. Bon. Mais il est certain pour que le gouvernement soit bon, hein, il vaut mieux qu'il soit confié à un seul ou à un petit groupe. Et plus le groupe est étendu, plus c'est la pagaille. Bon, enfin, voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. C'est un sujet peut-être un petit peu difficile. Mais sujet important. Oui. Donc cette rectitude de nos premiers parents lorsqu'ils sortent des mains de Dieu. Et il est un premier dogme de foi, car ceci est de foi, eh bien c'est que l'homme a été créé en état de grâce. Et dès le premier instant, hein, l'homme a été créé en état de grâce. Oui. Il ne faut pas imaginer que Dieu ait créé l'homme. Voilà, comme ça, un petit peu, puis un boulot, mais tiens, en plus je vais t'ajouter la grâce. Non, la grâce a été conférée à Adam dès sa création. Si quelqu'un ne confesse pas qu'Adam, le premier homme, après avoir transgressé le commandement de Dieu dans le paradis, perdit immédiatement la sainteté et la justice dans lesquelles il avait été établi, oui, donc Adam avait été établi dans la sainteté et la justice. Bon, la sainteté, c'est l'état de grâce, c'est sûr, ça. Donc Adam a été créé en état de grâce. Et Ève aussi, bien sûr, ça va de soi. Hein. Bon. Et quand on dit Adam, c'est, voilà, disons, le genre humain à son origine. Hein. Et il est sûr que le péché, justement, lui a fait perdre cette sainteté et cette justice. Vous voyez. Donc la perte de l'état de grâce a été une conséquence du péché. Mais au départ, eh bien, Adam était en état de grâce, vous voyez, dès l'instant de sa création. Et ceci est non pas affirmé de façon explicite, mais de façon indirecte par les épîtres de Saint Paul, l'épître aux Romains, si vous voulez voir au chapitre 5, vers le verset 19-20, où Saint Paul parle justement d'une restauration de l'homme. Et sans cesse, il parle de restaurer, de réconcilier, de rénovation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est le retour à un état antérieur. Donc, ce qui veut dire indirectement, eh bien, que Adam et Ève étaient justement dans un état de perfection dans lequel il nous faut revenir aujourd'hui. Nous n'y sommes plus et il faut y revenir. De même, en effet, que par la désobéissance d'un seul homme, tous ont été constitués pécheurs. Oui, nous sommes pécheurs par la désobéissance d'un seul. De même, par l'obéissance d'un seul, tous seront constitués justes. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, etc. Bon. Dans l'Épître aux Corinthiens également, deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 5, mais surtout l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 22-24. Voilà, très beau passage. Vous dépouillez du vieil homme corrompu par les convoitises trompeuses, à vous renouveler, oui, il s'agit de se renouveler dans votre esprit et dans vos pensées, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Voilà, oui, revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, en fait, c'est l'homme ancien, si on peut dire. Ouais. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Ouais. Redevenir ce qu'étaient Adam et Ève avant le péché originel. Ouais. Cette justice et sainteté véritable. Oui, donc, Adam et Ève créés en état de grâce, cela a été bien sûr un don surnaturel, et cela a été fait dès le premier instant de la création. Cela n'a pas, Dieu n'a pas attendu, il n'y a pas besoin d'attendre un certain temps pour donner la grâce à Adam. À quoi ça aurait servi? Ce temps, ce délai d'attente n'aurait servi à rien, non. Dieu donne à Adam et Ève la grâce dès l'instant de leur création. L'Écriture ne l'affirme pas de façon explicite, si vous voulez, mais vous avez quand même dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 30, bien cette affirmation « Deus fecit hominem rectum ». Dieu fit l'homme droit. Dieu a fait l'homme droit. Voilà. Dieu a fait l'homme droit. Alors, et quelle est l'argumentation que fait saint Thomas d'Aquin à partir de cet article, de ce verset? Dieu a fait l'homme droit. Si cette rectitude était naturelle, oui, si ça n'était pas un effet de la grâce, de l'état de grâce, oui, eh bien, quand Adam a péché, quand Adam a donc perdu la grâce, il aurait conservé cette rectitude. Si cette rectitude était naturelle, oui, si elle avait précédé l'état de grâce. Voilà, Dieu a fait un homme parfaitement droit. Et ensuite, il lui donne la grâce. Bon, Adam pêche, il perd la grâce, il garde la rectitude. Or, eh bien, de facto, il n'y a qu'à nous considérer, la rectitude, nous ne l'avons plus. Hein. Bon, c'est le désordre. Hein. Donc, conclut saint Thomas, ben, cette rectitude était un effet de la grâce. Bon, c'était un effet de l'infusion de la grâce dès le premier instant. Dieu a fait l'homme droit en lui donnant la grâce. C'est la grâce qui est la source, le point de départ de la rectitude de l'homme. Oui, donc voilà, cet état de perfection, de rectitude, dans lequel Dieu a constitué l'homme. Et cet état de rectitude, eh bien, inclut ce que l'on appelle les dons préternaturels. Les dons préternaturels, qui sont donc des dons gratuits de Dieu, surajoutés à la nature, oui, qui sont conformes à la nature de l'homme, oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on les appelle des dons préternaturels, ils sont dans l'ordre de la nature, mais ne sont pas, comment dire ça, dus à la nature. Ouais. C'est pas automatique. Ouais. Ce n'est pas une conséquence nécessaire de notre nature. C'est dans l'ordre de la nature. Ça complète la nature. Ça ne va pas contre la nature, mais ce n'est pas dû à la nature. Ouais. C'est un cadeau du bon Dieu, ouais, pour compléter, achever, parfaire notre nature en supprimant les défauts naturels qui sont inévitables à la constitution de notre nature humaine. Ouais. Bon, par exemple, l'homme étant constitué d'un corps et d'une âme, un corps et une âme, nous l'avons vu, même dans la création, un peu de poussière et puis ensuite le souffle de vie, voilà deux parties qui constituent l'homme. Et bien, ces deux parties ayant été rajoutées, si l'on peut dire, et bien, ces deux parties sont également séparables. On peut séparer, et ça c'est dans l'ordre de la nature, le corps et l'âme. Et ça c'est la mort. Voilà, séparation du corps et de l'âme. Voilà, ben ça c'est un défaut naturel, ouais, c'est un certain défaut naturel, ben, un jour ou l'autre notre âme peut se séparer de notre corps, bon, ben voilà. Eh bien Dieu avait supprimé justement par ses dons préternaturels, notamment ce défaut naturel de la mortalité, en donnant à l'homme précisément ce premier don, celui de l'immortalité. Et oui, l'homme au départ était immortel, et cela est de foi, immortalité de l'homme. Adam et Ève n'ont pas été créés pour la mort, ouais. Alors cela est indiqué dans le livre de la Genèse, c'est l'arbre de vie, oui, qui est planté dans le jardin, l'arbre de vie justement qui manifeste l'immortalité. Cela est exprimé également dans le livre de la Genèse, oui, par exemple ce châtiment qui est promis, on peut dire, à Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Oui. Donc si Adam n'avait pas mangé, eh bien, il ne serait pas mort. Donc il était immortel. En soi, dans l'idée de Dieu, le plan de Dieu était que l'homme ne mourût point. Il ne fallait pas. Voilà. Dieu ne voulait pas que Adam et Ève meurent. Mais attention, condition, ne touche pas à l'arbre. Voilà. Et également dans, ensuite, le chapitre 3 de la Genèse, ouais, c'est le châtiment justement du péché. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras en poussière. Oui, voilà. Le retour à la poussière, eh bien, c'est une conséquence du péché. Donc, avant le péché, Adam ne devait pas mourir. Et le livre de la sagesse le dit, alors lui, de façon explicite, au chapitre 2, versets 23-24. Un très beau chapitre, ça. Enfin, tout est beau dans la Bible, de toute façon. Que dit Dieu ? Que dit Dieu ? Puisque c'est Dieu qui parle par la voix de l'écrivain sacré. Car Dieu a créé l'homme pour l'immortalité. Dieu a créé l'homme pour l'immortalité. Il l'a fait à l'image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est venue dans le monde. Ils en feront l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Dieu n'a pas fait l'homme pour la mort. Ouais. Alors que l'homme naturellement est mortel, eh bien Dieu, quand il a créé, a voulu qu'il ne le soit pas, a voulu qu'il ne meure pas. Alors ceci est également défini par l'Église, bien sûr. Hein. C'est donc deux fois. C'est non seulement dans l'Écriture, mais l'Église, en plus, a voulu insister, hein, manifester sa pensée sur la chose. Vous voyez, concile de Carthage de 418. Oui, ça, c'est un dogme de foi qui remonte à loin. Comme c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas une invention de je ne sais qui, c'est des scolastiques ou je ne sais pas qui. Oh non, Concile de Carthage, 418. Quiconque dit qu'Adam, le premier homme, a été créé mortel, de sorte que, qu'il pécha ou non, même s'il n'avait pas péché, disent ces gens-là, hein, c'est Pélage qui disait ça, bien sûr. Donc, de telle sorte que il devait mourir corporellement. C'est-à-dire que quitter son corps ne serait pas une conséquence du péché, mais une nécessité de sa nature, anathémasie, qu'il soit anathème. Donc c'est un dogme de foi, il n'y a rien à faire, hein. Rien à faire. Adam était immortel, eh oui, ça peut nous faire rêver, mais qu'est-ce que vous voulez, hein. Bon, vu l'état dans lequel le monde aujourd'hui, je crois qu'il vaut mieux que, hein, pas trop s'attarder, parce que, hein. Enfin, il est sûr que s'il n'y avait pas eu le péché, le monde serait parfait aussi, donc tout irait bien. Et ce don devait être transmis normalement, vous voyez, si tout s'était bien passé, si Ève n'avait pas fait la causette avec un serpent, eh bien, ce don aurait été transmis à la génération d'Adam et Ève. Voilà, vous voyez, ce privilège de l'immortalité, eh bien, nous l'aurions encore aujourd'hui. Alors vous me direz, mais alors comment on ferait pour se tenir sur la Terre, tout ce monde-là, dites-donc, si personne n'était mort depuis l'origine de l'humanité, bon, enfin, vous ne cassez pas trop la tête là-dessus. Voilà. Il est admis quand même que normalement, Adam et Ève devaient être, justement, s'ils avaient triomphé de la tentation, ouais, s'ils n'avaient pas succombé, eh bien, normalement, c'était l'épreuve. Ils auraient été admis au bout d'un certain temps dans la gloire de Dieu. Alors là, tout est changé, là. C'est plus du tout les mêmes conditions que celles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Hein. C'était la condition, un petit peu, pour être introduit dans la gloire éternelle. Hein. Mais normalement, donc, ce don devait être transmis à sa postérité. Et ce don d'immortalité inclut tout un ensemble de choses. Bien sûr, d'abord, si on peut dire, cette sorte de force surnaturelle ajoutée à la nature, ouais, force donnée à l'âme pour conserver le corps, ouais, pour maintenir le corps dans son état de perfection. Vous voyez, cette emprise totale de l'âme sur le corps. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, notre âme a bien du mal à commander à notre corps. Hein, bon, et parfois, c'est le corps qui l'emporte, malheureusement. Eh bien là, l'âme, au contraire, avait une telle force surnaturelle, vous voyez, par cet état de grâce, hein, eh bien, qu'elle avait une emprise totale sur tout le corps. Cela inclut également une providence spéciale de Dieu, hein, une vigilance particulière de Dieu pour protéger l'homme. Cela inclut également dans l'homme, mais cela rejoint un autre don dont nous parlerons, une intelligence de l'homme, sagesse de l'homme, ouais, sagesse plus pénétrante que la nôtre pour éviter les dangers. Nous avons bien du mal à prévoir, à éviter tous les dangers, les accidents, je ne sais quoi. Mais l'homme aurait été muni d'une telle intelligence, d'une telle sagesse, qu'il aurait évité tous les dangers, tous les problèmes, toutes les difficultés. Ouais. Et puis en plus, il y avait cet arbre de vie, ouais, auquel Adam avait le droit de toucher, lui. Hein. L'arbre de vie, ce n'était pas celui-là, c'était l'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. L'arbre de vie, dont tous les pères de l'Église s'entendent à dire, eh bien, qu'il, précisément, il alimentait la vie et empêchait la sénilité. Oh, extraordinaire. Ouais. Adam et Ève ne devaient pas vieillir. Pas de cheveux blancs, pas de dents qui tombent, pas de trucs comme ça. Formidable. Et, oui. Et vous savez, on a... Si vous lisez l'Écriture, hein, parfois, méfiez-vous, ne soyez pas trop rationaliste. Hein, on peut sourire quand on voit l'âge des patriarches, 800, 900 ans. Tout ça, c'est des contes de bonnes femmes. Mais non. Et ce sont des restes, justement, de ce don d'immortalité. Et si vous lisez l'Écriture, vous voyez, c'est très, très, très beau de voir ça. Mais on voit que petit à petit, au contraire, la durée de la vie humaine décroît. Au début, ils vivent 900 ans, après 800, 700, 600. Et vous avez encore, c'est lequel? C'est Moïse, je crois, qui est mort à 120 ans, ou 140, je ne sais plus très bien, quelque chose comme ça. Il avait toutes ses dents. C'est dans l'Écriture. Il avait toutes ses dents. Ben écoutez, nous on a bien du mal à les garder, alors qu'on n'a pas 120 ans. Oui, mais lui, il avait 120 ans ou 140, je ne sais plus très bien, pardonnez-moi. Mais... Et il avait toutes ses dents. Il lui voyait clair, pas de problème. Et tout ça, vous voyez, ce sont des choses qui nous manifestent un petit peu cet état de perfection dans lequel étaient nos premiers parents, bon, qui petit à petit, eh bien, s'est amoindri jusqu'à aboutir au petit rabougri que nous sommes aujourd'hui. Hein. On a bien du mal à vivoter, hein, bien longtemps, et à rester à peu près en état. Vous voyez donc ce premier don de l'immortalité. Deuxième don est celui de, qu'on appelle de l'intégrité. Don de l'intégrité. Ça, c'est un don qui peut nous faire rêver, celui-là aussi. Don de l'intégrité, justement, bien, c'est cette parfaite rectitude, ouais, où tous les appétits inférieurs sont soumis à la raison. Ouais, il n'y avait pas chez eux ce combat, par exemple, entre la chair et l'esprit. Ce combat entre les passions, l'intelligence, la raison, la volonté, l'âme, la grâce. Ouais, on est toujours en train de nous battre au-dedans de nous-mêmes, ouais, toutes ces choses-là qui tiraillent un peu dans tous les sens. Eh bien non, ouais, chez nos premiers parents, tout cela était parfaitement ordonné et soumis, bien sûr, par l'influx de la grâce, oui, la grâce qui commandait donc à l'âme, donc l'intelligence et la volonté, qui étaient parfaitement droites, hein, et qui alors gouvernaient les passions inférieures, les passions de notre âme, oui, etc. Et toutes ces passions, bien qui également gouvernaient donc l'âme, la raison, l'intelligence, qui commandaient parfaitement au corps et à toutes ces passions. Aucun désordre. Adam et Ève n'avaient aucun mouvement désordonné. Tout ce qu'il faisait était parfaitement contrôlé, soumis à la raison, à l'intelligence et à la grâce, et donc à Dieu. Ouais. Alors, jamais une maladresse, jamais un mouvement un petit peu désordonné, ouais. Jamais de ces mouvements d'humeur comme ça, non contrôlés, non. Tout ça parfaitement soumis. Extraordinaire. Et nous le voyons, par exemple, vous voyez, ces petits versets que nous avons lus tout à l'heure, hein. Ils étaient nus tous les deux, l'homme et la femme, sans en avoir honte. Oui, qui vous montre un peu cette parfaite rectitude. Ils n'avaient pas honte de leur nudité. Eh bien, parce qu'il n'y avait pas encore en eux, oui, cette vilaine concupiscence, oui, qui nous fait voir le mal là où il n'est pas. Oui. Ils étaient nus et tout allait bien. Et ça manifeste une belle rectitude, oui, une belle soumission justement, de tout l'être humain à la grâce. Là, oui. Et cela aussi, bien sûr, hein, l'Église l'a défini, l'enseigne depuis toujours, hein, cet état de rectitude. Si quelqu'un dit que par l'offense de la prévarication d'Adam, l'homme n'a pas été tout entier dans son corps et dans son âme changé en un état pire. Hein? Donc cela veut dire indirectement, eh bien, que l'état antérieur était un état de perfection dans son corps et dans son âme. Nous sommes actuellement dans un état pire. Ce désordre est un état pire. Donc l'état non pire, eh bien, c'est l'état de non-désordre et donc l'état de rectitude. Et cela aussi, oui, bon, nous pourrions multiplier là, les citations de l'Église, c'est clair tout cela. Hein. Cela ne peut nous faire un petit peu rêver, vous savez, si on essaie de réaliser ce que cela signifiait, ce que cela représentait, vous voyez, puisque tous les, ce qu'on appelle les appétits inférieurs, ouais, bon, tous les mouvements, les passions, etc., tout cela était parfaitement droit, parfaitement soumis à la raison et à la grâce. Eh bien, cela permettait à Adam et Ève, par exemple, de jouir des biens de la terre, mais d'une façon raisonnable. Et, bien sûr, parce que quand même, bon, vous voyez, cette délectation des sens, par exemple, eh bien, qui existait, manger un fruit, manger je ne sais pas quoi, mais enfin, c'est agréable au palais, et c'était agréable pour Adam et Ève, mais ils jouissaient de ces délectations sans aucun désordre, pas de gourmandise. Voilà, ils en jouissaient dans la mesure du nécessaire, simplement. Cela contribuait à parfaire leur bonheur, et cela ne pouvait pas les entraîner au péché. Parfait. Eh oui. Oui, dans cette nature intègre, rien n'était mauvais, car tout venait de Dieu, et tout était justement maintenu dans l'ordre par la main même de Dieu. Hein. Et depuis, toutes les facultés de l'âme, donc, étaient subordonnées, oui, et en ordre. Oui. Alors que depuis le péché originel, ben, nous voyons, hein, ce combat, depuis la chute, hein, ces trois concupiscences, hein, dont parle Saint Jean, toutes ces blessures qui font suite au péché originel, dont nous parlerons plus tard. Oui. Bon, tous ces appétits de la gloire, ces appétits sensuels, soif de posséder, ouais, qui tout cela s'alimente un petit peu toujours, bien sûr, à ce qui est l'essentiel du péché originel, l'orgueil, ouais, la soif de posséder, la soif de dominer, d'être le maître de la terre, indépendamment de Dieu, soif d'indépendance, voilà, être seul, maître de soi, être soi-même l'auteur de son bonheur et de sa perfection. Ouais. Et oui, et il faut bien, oui, dans cette question des dons, là, bon, immortalité, intégrité, et le baptême, lorsqu'un enfant est baptisé, bon, bien sûr, il retrouve la grâce, mais pas les dons. Hein. Attention, ne nous faites pas d'illusions. Hein. On a retrouvé la grâce, mais les dons, c'était des dons qui étaient faits à Adam et Ève et qui ont été perdus et que nous ne retrouverons pas. Il finit ça, terminé. Alors on peut retrouver la grâce, qui est déjà pas mal, qui nous permet de retrouver Dieu, mais notre nature, elle garde quand même la source hein, de ce désordre, ce qu'on appelle le fomes peccati, le foyer du péché. Le foyer du péché demeure, hein, cette concupiscence qui est dans notre âme. Donc immortalité, intégrité. Troisième don préternaturel, c'est l'impassibilité. L'impassibilité. Aussi, c'est pas mal, quand même, sympathique. Hein. C'est l'impossibilité de souffrir. Ah, ça ferait du bien. Hein. Et oui, il ne pouvait pas souffrir. Et cela est une conséquence, d'ailleurs, où ça va de pair avec l'immortalité. La souffrance et la mort se tiennent. Ce sont tous les deux des conséquences du péché. Et la souffrance, eh bien, nous conduit à la mort. Ouais. Et celui qui ne doit pas mourir, eh bien, ne doit pas souffrir. La passibilité conduit à la mort. Eh bien, puisqu'ils étaient immortels, tous les deux, ils étaient également ce qu'on appelle impassibles. Ils ne pouvaient pas souffrir. Ouais. Ni dans leur âme, ni dans leur corps. Ouais. Bon. Pas de tristesse, pas d'angoisse, pas de crainte, pas de faim, pas de soif. Enfin, ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc, pas de crainte, c'est sûr. Vous voyez, certaines passions de l'âme comme ça, Adam et Ève ne pouvaient pas la connaître, les connaître, la tristesse. Bon. Pas de tristesse. Jamais, jamais de spleen, jamais de stress, formidable, ça, oui. Extraordinaire, ils avaient tout ce qu'il fallait, c'est sûr. Hein. Hein, toutes ces passions comme ça sont nées, eh bien, depuis le péché. Hein. C'est parce que nous sommes privés, justement, de tout un tas de bonheur, eh bien, que nous sommes tristes, angoissés, craintifs, etc. Oui. Plus toutes ces souffrances physiques, hein, qui sont également une conséquence du péché. Hein. La douleur, oui, ça, il ne faut pas l'oublier, oui, lorsque nous avons quelque chose à souffrir. Et la douleur est une conséquence du péché, c'est une punition. Une punition infligée à l'humanité dans son ensemble, eh bien, pour les péchés de l'humanité. Ouais. Et il ne faut pas oublier, je crois que c'est d'ailleurs la meilleure façon de souffrir, eh bien, justement, de comprendre un petit peu la valeur expiatrice de la souffrance. Ouais. Lorsque j'ai quelque chose à souffrir, eh bien, je peux expier mes péchés et les péchés du monde. Voilà. Et si j'unis ma souffrance à celle de Jésus-Christ, eh bien, je vais réparer avec lui. Et donc, je vais sauver avec lui. Ah, formidable! Ça ne supprime pas la souffrance, bien sûr, mais ça met dans notre souffrance un peu de douceur, un peu de, un petit quelque chose qui nous permet justement de continuer à marcher. Ouais. Et oui, la douleur est une conséquence du péché. Ouais. Et il est certain hein, que dans le premier plan de Dieu, hein, le plan originel de Dieu, l'homme ne devait ni souffrir ni mourir. Hein. Le bon Dieu n'a jamais voulu cela. Hein. Il ne faut pas accuser le bon Dieu, ce n'est pas de sa faute. Si le monde est détraqué, ce n'est pas la faute du bon Dieu. On est toujours en train d'accuser le bon Dieu. Mais enfin, quand même, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il peut, lui. Enfin, il fait ce qu'il peut, oui. Il fait même plus. Enfin, voilà. Et il passe son temps, vous savez. Et ça, c'est toute l'action de la Providence. Le bon Dieu passe son éternité à remettre de l'ordre là où nous mettons la pagaille. Et c'est ça, la Providence. La Providence, vous voyez, Dieu passe son temps à rééquilibrer un petit peu le monde pour que ça n'explose pas. Et si le monde n'a pas encore explosé, c'est pas la faute du bon Dieu. Hein. C'est notre faute à nous. Non, enfin, c'est l'inversement, vous m'avez compris, quoi, bon, voilà. Et oui, depuis je ne sais combien de milliers d'années, on fait tout ce qu'on peut pour que ça saute, au contraire. Mais remercions le bon Dieu, justement, de veiller sur nous par sa providence. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait des désordres. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des souffrances et des maladies et des guerres, et c'est vrai. Mais qui est le coupable de tout cela? C'est pas le bon Dieu. Ah, et attention, hein, pas épuiser celui qui est innocent, quand même. Au contraire, il fait tout ce qu'il peut pour arrêter ça, hein. Et puis enfin, quatrième don préternaturel, c'est celui de la science. Là aussi, c'est un don qui est bien beau. Hein. Don de la science qui est un petit peu à part des trois autres. Voyez, immortalité, impassibilité et intégrité, ça, ce sont des dons celui qui sont donnés à la nature humaine et qui étaient transmissibles. Voyez, l'homme, impassible, immortel, intègre, aurait engendré des enfants impassibles, immortels et intègres. Voyez. Mais ce quatrième don, le don de la science, lui, eh bien, n'aurait pas été transmis par génération. Parce que le don de la science, c'est un don intellectuel. Ouais, un don intellectuel et qui est personnel. Mon intelligence n'est pas la vôtre. Ouais. Et donc, ce que connaît mon intelligence, eh bien, je ne peux vous le transmettre à vous que d'une seule façon, par l'enseignement. Ouais, donc, ce don de science n'aurait pas été transmissible par génération, mais simplement par enseignement. Adam et Ève auraient enseigné leurs enfants. Voilà, il aurait appris un petit peu tout ce qu'eux connaissaient, et ainsi de suite. Oui, cette science supérieure se serait transmise. Et Adam avait ainsi une science des réalités naturelles. Oui. extraordinaire que nous n'avons pas et que nos plus grands savants d'aujourd'hui n'ont pas, malgré tous leurs appareils pour scruter le fond des je ne sais pas quoi. Là. Ils ignorent beaucoup de choses que savaient Adam et Ève, qui n'avaient pas besoin de microscopes et de lunettes astronomiques et d'ordinateurs ou de je ne sais quoi. Hein. Non, un exemple. Je veux savoir quel est l'homme qui est capable de faire ça. Hein. Voilà, Adam et Ève viennent d'être créés. Hein. Ils sont, je dirais, tout purs, tout innocents. Ils ouvrent les yeux à peine. Que le monde est beau, que le bon Dieu est bon. Bon, très bien. Et que fait Dieu? Que fait Dieu? Chapitre 2, verset 19, 20. Alors, c'est avant même la création de la femme, vous voyez. Nous évoquions un petit peu ce... Donc, c'est... Bon, enfin, voilà. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et alors, que fait Dieu? Ah, il y avait Dieu qui avait formé du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Vous voyez, le bon Dieu qui fait défiler devant Adam tous les animaux et tous les oiseaux, tous, et il y en a, hein, depuis le petit moustique jusqu'au pachyderme le plus énorme, là, il les fait tous défiler devant lui pour voir un peu comment il les appellerait, et pour que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Et vous savez, hein, cela manifeste une science extraordinaire, parce que pour nommer une chose, il faut connaître la nature de la chose. Normalement, le nom désigne ce qu'est la chose. Vous voyez un petit peu la science qu'avait Adam, hein, et Ève aussi, Ève va l'avoir aussi, mais pour l'instant, c'est Adam qui l'a. Ouais. Et oui, ouais, cette science qu'il avait pour pouvoir ainsi nommer, et donc comprendre un petit peu la substance, la nature, l'essence de chacun de ces animaux, et donner à chacun de ces animaux son nom propre, qui le désigne lui et pas un autre. Ben, dis non. Hein. Oui, cette science extraordinaire, hein, d'Adam. Science, bien sûr, qui était bon, surnaturelle, infuse par Dieu, hein, mais qui était quand même, je dirais, conforme à la nature de son intelligence. Oui. Donc, science des réalités naturelles, et puis en plus, ce qu'on appelle l'immunité de l'erreur. Oui, Adam ne pouvait pas se tromper. Non seulement il avait cette science, qui n'était pas comme la science divine, hein, faut pas croire qu'il avait l'omniscience de toutes choses, hein, mais science parfaite avec immunité de l'erreur. Mais pourquoi? Bien, cela est une conséquence de ce privilège du don d'intégrité. Oui, puisque tout était parfaitement soumis chez Adam, eh bien, il ne pouvait pas tromper. Oui, son intelligence était parfaitement ordonnée, soumise à la grâce, et donc il voyait tout conformément à Dieu. Et donc il n'y avait pas d'erreur possible. Adam ne pouvait pas commettre d'erreur. Oui. Adam ne pouvait... Et la première erreur que pouvait commettre Adam ne pouvait être qu'un péché. Mais en dehors du péché, Adam ne pouvait pas se tromper. Et à cause justement de cette rectitude, cette intégrité, pas d'erreur possible. Si Adam errait, si Adam se trompait, eh bien c'était un péché. C'est qu'en fait, voyez, il n'obéissait pas. Hein, il sortait de cette rectitude, de cette intégrité. Et ainsi, par exemple, Saint Augustin dit, au sujet de Ève, qu'elle n'a pas été vraiment trompée. Eh non, elle n'a pas été vraiment trompée, dit-il. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle n'aurait pas cru les paroles du serpent si déjà dans son esprit n'avait pris place l'amour de sa puissance propre et quelques présomptions orgueilleuses d'elle-même. Elle n'a pas été vraiment trompée. Hein. Si elle a cru le serpent, et c'est parce qu'en fait, ça a flatté un petit quelque chose chez elle. Ouais. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est un péché. Cette immunité d'erreur. Ouais. Voyez un petit peu cet état de perfection dans lequel étaient constitués nos premiers parents. Bien sûr, tout cela est très, très rapide. On pourrait ajouter à cela justement quelques petites considérations. Par exemple, sur l'empire de l'homme sur les créatures, ouais. Ce gouvernement, cette maîtrise, Dieu le dit à Adam, hein, il lui dit voilà, de gouverner la terre, etc. Donc ce gouvernement sur les plantes et sur les inanimés, ce gouvernement même sur les animaux obéissaient à Adam et Ève. Il n'y a pas de problème, ça, avant le péché, hein, bien sûr. Ouais. Ils étaient les maîtres, ouais, tout était aussi longtemps qu'eux-mêmes restaient dans l'ordre, eh bien la créature leur obéissait, quelle que soit la créature. Ouais. Et il y avait, bien sûr, hein, dans cet état primitif de la création et même de l'humanité, bien une certaine hiérarchie. L'homme étant un être social, et toute société requérant un gouvernement, bien il y avait un chef et puis des gens qui ne gouvernaient pas. Ouais, si la race humaine s'était perpétuée, eh bien il y aurait eu un chef. Et les hommes même auraient été inégaux. Ce qui n'est pas Il y a une contradiction avec la perfection et avec le bonheur. L'inégalité n'est pas du tout un empêchement au bonheur, absolument pas. Ouais, ça, c'est une conception complètement erronée et révolutionnaire d'ailleurs de la justice. La justice, ce n'est pas l'égalité. Mais non, parce que les êtres sont inégaux. Et cette inégalité des êtres est voulue par Dieu même. Parce que c'est cette inégalité qui fait justement l'harmonie. C'est un arc-en-ciel. Si tout est rouge, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est peut-être bien, mais enfin, c'est moins beau qu'un arc-en-ciel. Il faut des couleurs différentes. Oui. Et bien dans la création, c'est pareil. La création est destinée à être le reflet de la perfection de Dieu. Alors comment voulez-vous représenter dans la création la perfection infinie de Dieu? Il n'y a qu'une façon, et bien c'est de multiplier les perfections dans la créature. Multiplier les perfections, et donc et bien, une chose parfaite n'a pas la même perfection qu'une autre, et donc il n'y a pas deux créatures qui soient semblables, qui soient égales, qui soient parfaites. Et c'est cet ensemble de créatures inégales, diverses, et bien, qui fait l'harmonie, qui fait la beauté, la splendeur de l'univers, et qui donne à l'homme une petite idée justement de cette beauté, de cette splendeur de Dieu. Et donc les hommes auraient été inégaux. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. On pourrait dire encore bien, bien des choses, mais enfin. Et Adam ne pouvait même pas faire un péché véniel. Ah, formidable ça. Même pas un péché véniel. Et oui, Adam, si jamais un jour il se mettait à pécher, ne pouvait faire qu'un péché mortel. Et à cause de cette rectitude, cette intégrité, la grâce, il est en état de grâce, il voit tout dans l'ordre, parfaitement. C'est un peu comme les anges, vous voyez. Et donc le jour où il pêche, eh bien c'est dans un refus délibéré, volontaire, conscient, pleinement conscient, eh bien de se soustraire à la grâce. Préférer quelque chose, voyez, qui vient de lui-même, à quelque chose qui vient de Dieu, et ça c'est le péché mortel. Donc Adam ne pouvait faire qu'un péché mortel. Et le premier péché a été un péché mortel, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire un péché véniel. Le péché véniel qui est un péché de fragilité, c'est parce que oui, bon, on ne voit pas très bien les choses, etc. Alors notre volonté sans doute adhère, mais il y a une part d'imperfection, une part de volonté, bien sûr, mais cela vient de notre imperfection, alors qu'Adam était parfait. Il ne pouvait pas commettre un péché véniel. Il ne pouvait commettre qu'un péché mortel, hélas. Oui. Et c'est bien cela qu'il a commis. Voilà un petit peu, oui, entre autres, pour dire bien des choses, hein, cet état de perfection. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, a un très très beau passage sur cette félicité du paradis. Bien sûr, cette félicité du paradis terrestre, elle ne peut que nous faire rêver. C'est un petit peu la nostalgie. Et, oh, quand même, c'était le bon temps, quoi, hein, c'est sûr, parce que malheureusement, ça, on ne peut pas le retrouver. Et ça, nous ne pouvons pas le retrouver. Et ça, c'est une illusion, c'est un blasphème, même. Vous voyez que tous ces gens, ces hommes politiques qui nous promettent le bonheur pour demain, mais c'est de l'illusion, c'est du mensonge. Jamais nous ne retrouverons ce bonheur parfait sur la terre. Le bonheur parfait, il sera au paradis, oui, mais un autre paradis, hein, le sein de Dieu, la gloire éternelle. Et d'ici là, nous serons toujours sur cette terre de misère. Hein. Le paradis terrestre ne reviendra pas. Ne reviendra pas. Faux, ça, la grâce passe et elle ne repasse pas. Une autre grâce passe, bien sûr, mais ce n'est pas la même. Et le paradis terrestre, eh bien, il ne reviendra pas. Voyez un petit peu ce passage de saint Augustin. L'homme vivait donc, c'est dans la Cité de Dieu. Un livre un peu difficile, mais enfin, qui a de beaux passages. L'homme vivait donc dans le paradis comme il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Extraordinaire, ça. Et oui, ama et fac quod vis. Aime et fais ce que tu veux. Tant qu'on est dans la perfection de l'amour, la perfection de la charité, on peut faire ce qu'on veut. Et parce que notre volonté est droite à ce moment-là. Si vous voulez. Alors là, tout ce qu'on veut, eh bien, vous voulez la liberté, eh bien, aimer. Mais aimer, dans la charité. Et alors là, pas de problème. Il vivait donc dans le paradis comme il voulait, tant que sa volonté était soumise au commandement de Dieu. Il vivait jouissant de Dieu, dont la souveraine bonté le rendait bon lui-même. Exempt de besoin, il dépendait de lui de vivre toujours ainsi. Aucun besoin. Il avait tout, tout ce qu'il voulait. Ses aliments étaient sous sa main. Oh, même pas besoin de faire le marché ou la cuisine, formidable. Eh oui, ses aliments étaient sous la main pour le garantir de la faim et de la soif, et l'arbre de vie pour le préserver des infirmités de la vieillesse. Il ne ressentait aucune corruption dans son corps ou dont son corps fut la cause. Ses sens n'éprouvaient aucune incommodité. Il n'avait jamais mal à la tête, jamais mal aux dents, rien, tout ça. Jamais un rhume. Eh oui. Il n'avait à redouter ni maladie au-dedans, ni accident au-dehors. Sa chair jouissait d'une santé excellente et son âme d'une parfaite tranquillité. Il n'y avait au paradis ni froid, ni chaud. Et son heureux habitant n'avait à subir ni ses désirs, ni ses craintes, qui sont la ruine de la bonne volonté. Là, point de tristesse, ni de folle joie. Sa véritable et perpétuelle joie était en Dieu qu'il aimait, d'une charité ardente, procédant d'un cœur pur, d'une conscience heureuse et d'une foi sincère. La société conjugale était fidèle, sous le joug du plus chaste amour. L'harmonie était la gardienne de l'âme et du corps, et l'observation du commandement divin était facile. On n'éprouvait pas de lassitude, d'un repos fatigant. On ne succombait pas au sommeil malgré soi. On ne s'endormait pas pendant les conférences. Eh oui, etc., etc. Oui, c'est extraordinaire. C'est sûr qu'on a du mal à imaginer ça, parce que on est tellement loin de vivre dans ces conditions-là, mais c'est quelque chose de extraordinaire. Oui.